Il n'y a pas de test micro là, tout va bien.
Porto, ouvre les yeux, c'est l'heure.
Bah je suis là, j'ai la pêche. Bienvenue dans la matinale de Bartas.
Un max de local et un peu d'autre chose. Les bonnes ondes sont sur le 107FM.
Décollage immédiat.
Pour les matinales de Bartas. T'as tes lunettes, bordel.
Allez, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107, nous sommes le mercredi 23 novembre, il est 8h30 et au programme de cette matinale, nous sommes avec Future Z, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, tu es musicienne et tu nous reviens d'une tournée en Suisse et en Allemagne pour poser ta cassette, on comprendra pourquoi tout à l'heure à Saint-Martin-de-Lensuscle, c'est ce samedi, c'est bien ça hein ?
Oui c'est ça.
Ah bah on va parler avec toi de ce fabuleux projet, c'est super cool, j'ai écouté, c'est trop bien. D'ailleurs, la programmation musicale aussi, ce sera trois de tes morceaux. En deuxième partie d'émission, nous recevrons Éric Després, il est chercheur de fossiles et même que c'est super intéressant, et bah je vous propose qu'on y aille directement. Justement, on commence par l'édito.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Bartas. 6 mois d'allocation en moins et vlan, voilà la réforme proposée par le gouvernement pour l'assurance chômage pour celles et ceux qui auraient droit à la durée maximum d'indemnisation, soit 18 mois d'indemnité au lieu de 24. Pour les plus de 55 ans qui bénéficient à l'heure actuelle de 36 mois de droit, le capital sera amputé de 9 mois. L'évidence saute aux yeux. Derrière la volonté d'adapter les droits au contexte économique, se cache depuis le début l'intention d'appauvrir encore et encore les droits des chômeurs et des chômeuses. Le gouvernement nous parle de souplesse, mais sa seule motivation est de durcir sans relâche les règles de l'assurance chômage et l'étau n'est pas prêt de se desserrer. Si le taux de chômage atteint les 9% ou s'il progresse brutalement de 0,8 points en un seul trimestre, l'état de la conjoncture passera au rouge et à des règles plus protectrice, a indiqué ce lundi le ministère du Travail lors d'une présentation de sa réforme. Une promesse en fait qui n'est qu'un trompe-l'œil, hein, car si les chômeuses et les chômeurs sont assurés de perdre des droits, ils n'en gagneront jamais davantage. Les règles plus protectrices, comme ils disent, n'étant rien d'autre que les règles actuelles. Pour le gouvernement, moduler consiste uniquement à réduire les droits, jamais à les améliorer. Sus à la Sistana. Et pendant ce temps, pas d'impôts pour les super riches et pas de retour de l'ISF. Sachez d'ailleurs que l'extrême droite a voté contre. Allez les pauvres, on s'en fout de toute façon, c'est la Coupe du Monde. Tiens, on va t'écouter, ça va nous faire du bien, un tout petit peu de musique, un peu de douceur dans ce monde de brut, le temps que je fasse la manip. On écoute ça tout de suite, Future Z.
Thank you.
électron libre. Électron libre. Hors circuit. Je vais, je viens. Ne fais partie de rien. Électron libre. Cours circuit. Je vis ma vie. Dans l'infini.
Libre avec Futur Z qui est avec nous en direct sur Radio Bartas et qui sera en concert ce samedi à Saint-Martin-Lansusque. Futur Z, comment est né ce projet et pourquoi l'avoir appelé comme ça ?
Eh bien, ce projet est né il y a peut-être 3 ans. C'est des amis. Enfin, moi, j'écrivais beaucoup. Je suis artiste plasticienne. Et je fais des photos, de la peinture, de la reliure d'art. Et j'écrivais pas mal de poèmes qui étaient dans des carnets. J'en faisais pas forcément grand chose. Ils apparaissaient parfois dans des livres avec des photos. Mais en fait, ce projet est né lorsque des copains m'ont montré des logiciels pour fabriquer de la musique sur un ordinateur. Et à partir de là, j'ai commencé à mettre mes poèmes en musique. Et voilà. Donc, c'est né il y a à peu près 3 ans. Les personnes qui m'ont montré ces logiciels pour créer de la musique ont ensuite décidé de me produire une cassette. Enfin, je leur ai fait écouter 2-3 morceaux que j'avais fait assez vite, en fait. J'ai produit beaucoup pendant 2-3 mois. Quand je leur ai fait écouter les morceaux, ces gars-là, ils ont un petit label en Allemagne. Mmh. Et ils m'ont tout de suite proposé de faire une cassette.
Et ce goût pour le rétro, il est venu d'où ?
Bon, en fait, je collectionne des disques depuis des années. Avec mon copain, on collectionne des disques. On a une grosse collection des années 80, d'électro, de variétés synthwave, de voilà, ce genre d'italo-disco. Et l'influence musicale vient principalement de là. Mmh. Voilà.
Et donc, pourquoi Futur Z ?
Eh bien, Futur Z... Ouais, il a fallu que je trouve un nom au bout d'un moment, parce qu'ils m'ont produit une cassette, ensuite ils m'ont produit un 45 tours. Ah ouais. Et au début, j'avais pas vraiment de nom, mais Futur Z, c'est pas vraiment le dernier futur, tu vois, j'ai pas envie d'être trop pessimiste non plus. C'est plus lié aux séries Z, c'est un peu foireux, mais on rigole bien, quoi. Voilà, ma musique, elle est vraiment faite, c'est instinctif, je suis pas du tout musicienne, je joue pas d'instrument. Et tout ce que je fais, c'est un peu dans l'urgence de m'exprimer. Mmh. Et voilà, c'est pas toujours parfait techniquement, mais c'est pas le sujet, c'est pas le problème. Voilà, donc Futur Z.
Comment tu définis ton style musical, si tant est qu'on puisse le définir ?
Je sais pas trop. C'est une question que je m'étais jamais posée. Et quand j'ai commencé à faire des concerts, les gens qui m'invitaient, ils mettaient en dessous de mon nom, ils mettaient Synthwave.
Ah. Et ouais, ça marche bien. Hein.
Ouais, ça marche bien. Et là, pour le concert à Saint-Martin-de-Lansusque, j'ai rajouté Zulu Synthwave. Un rapport à mon costume.
Alors, tu rentres d'une tournée internationale, on peut le dire quand même. Je dis Allemagne, pète-la-toi un peu, ça le fait quand même.
Belgique aussi.
Et Belgique, ouais. Le plat pays. Alors, c'est justement grâce à ton label ou alors c'est aussi parce que c'est plus facile de produire ton style musical, la synthwave, dans ces pays-là. Ils sont un peu plus ouverts à ces styles.
Bah, l'idée de faire une tournée, ça vient de la sortie de mon premier album cassette. Donc le label qui me produit est allemand et ils ont un réseau là-bas. Ils ont un réseau et ils diffusent ma musique dans les caves de Cologne, de Berlin, de plusieurs villes comme ça. Et c'est vrai que les gens reçoivent très bien ma musique. Ils ne comprennent pas les paroles. Pourtant, il y a quand même du texte. Le texte est assez important. Et oui, effectivement, j'ai des amis aussi en Suisse. Donc la tournée s'est organisée comme ça, un petit peu autour des endroits que me proposaient les amis. Et voilà, je suis passée par Bâle, Zurich, Cologne et Bruxelles. Et voilà, je termine à Saint-Martin-de-Lanzig le samedi.
Rendez-vous compte, auditeurs, auditrices, la chance qu'on a d'avoir Future Z à quelques kilomètres de chez nous. Alors allez-y, c'est ce samedi. Comment ça se passe la vie pour toi en tournée ? Il y a des artistes qui n'aiment pas ça, forcément. Il y en a d'autres qui adorent. Toi, t'en es où ?
Bah, j'aime bien la coupure que ça crée dans le quotidien. En fait, c'est ma première tournée, donc c'est un peu nouveau. Et c'est aussi excitant que terrifiant, en fait. Le fait de faire des lives, c'est un nouvel exercice. C'est un truc auquel je ne pensais pas du tout. Mais à force d'avoir des propositions, cette année, je me suis dit, si je ne me jette pas à l'eau maintenant, je ne le ferai jamais. Donc, je me suis lancée. Et en fait, je crois que j'aime ça, faire danser les gens. J'ai toujours aimé ça, en passant des disques. Et c'est vrai que c'est éprouvant, les tournées, parce que moi, ils font toujours passer en fin de soirée. Je passe toujours vers 11h.
Bah ouais, mais le meilleur pour la fin.
Je ne sais pas si c'est le meilleur pour la fin ou si c'est le truc qui rebondit un petit peu. C'est assez dansant quand même. Et même si les paroles sont un peu sombres, voilà, ça fait quand même sautiller, quoi. Et la vie en tournée, c'est marrant. C'est marrant parce qu'on est toujours très bien reçu, en fait. Il faut le dire, moi, j'ai toujours été très bien reçu. Ça fait rencontrer des personnes qu'on ne rencontre pas dans le quotidien. Mmh. C'est une très belle expérience.
Alors, justement, tu l'as dit, il faut s'attendre à danser samedi. À quoi d'autre doit s'attendre le public sur ce moment
Pour le concert
de samedi.
En fait, c'est une soirée pull dance organisée par des personnes à Saint-Martin-de-Lanzig, au temple. Et c'est une soirée où il y aura un déstockage de pulls tricotés main par la grand-mère de Jacques. Et donc Jacques va offrir les pulls au public. Ensuite, il y aura des concerts. Il y aura Taki Cardi qui fait de la batterie expérimentale. Il y aura Faux Départ, un groupe de punk de Lyon. Et il y aura Dance Music Rhône-Alpes.
Ah, une grosse prog.
Ouais, qui fait de la musique électronique dansante, un peu expérimentale aussi. Et donc il y aura moi, Future Z. Tout ça avec de la soupe, des tartines et des cocktails à prix libre. Donc venez nombreux, voilà, venez transpirer sur le dance floor du temple.
Et je note que tu finis encore la soirée.
Ben ouais.
Musicalement, c'est quoi tes influences ?
Alors musicalement, il y a des groupes, c'est très années 80 comme je disais tout à l'heure, ça vient beaucoup des disques. J'aime beaucoup Kraftwerk, qui est ce groupe allemand un peu pionnier de la musique électronique. J'aime beaucoup Depeche Mode, qui est un grand classique pour moi. Ça, c'est pour les plus connus. Après, j'aime beaucoup aussi l'électro-minimal, beaucoup plus underground qu'il y avait en France dans les années 80. Je peux citer des groupes, je ne sais pas si ça vous parlera, mais
En tout cas, ça donne des idées.
Deux, par exemple, ou Moderne, ou Ruth. Voilà, c'est de la l'électronique minimale des années 80. Je ne les ai pas pour vous les faire écouter.
Une prochaine fois, sans doute. Hors antenne, là, avant de prendre l'antenne, on a un petit peu discuté. Je t'ai posé la question si on pouvait parler de certaines éditions. Au début, tu me dis non, mais finalement, tu m'as dit ouais, quand même, ouais, parce que c'est là qu'on peut se proposer, qu'on peut retrouver ta cassette, pardon. Donc, on va parler un tout petit peu des éditions infinies.
Ouais, on peut, ouais.
Alors, qu'est-ce donc que les éditions Infinies ?
Les éditions Infinies, c'est un projet que j'ai avec mon copain, qui est de diffuser des photos, de diffuser des états d'âme qu'on a par rapport au monde qui nous entoure, par le biais du livre. L'objet du livre, voilà, on fait beaucoup de photos et on a décidé de ne pas les diffuser sur Internet, sur des réseaux sociaux, sur Instagram. On a préféré fabriquer des écrins, des écrins de papier. Donc, tout est fait main. Ce sont des séries très limitées de livres que nous fabriquons à la maison. Et nos sujets sont plutôt liés à l'architecture brutaliste ou à l'écriture manuelle dans l'espace public. On publie parfois aussi des livres pour des amis qui ont des problématiques proches des nôtres. Et voilà, ça c'est une production donc, que je réalise avec mon copain Julien.
Les éditions Infinies, là, vous pouvez retrouver la cassette, mais précisons quand même que si jamais on n'a plus, enfin, on n'a plus de lecteur cassette, en tout cas, ça se perd et c'est dommage, puisque le stylo, là, on se rappelle bien ce stylo pour la rembobiner, c'est absolument ouais. Génial, qu'on peut te retrouver sur Bandcamp. Hein.
Oui. Oui, effectivement, ma cassette est en vente sur Bandcamp. Et je sais pas, je pourrais parler de l'objet cassette en fait.
Avec plaisir,
parce que tu dis que c'est en voie de disparition, mais en fait c'est comme le vinyle, c'est en voie de réapparition. Parce qu'avec la phase coronavirus, en fait l'industrie du vinyle s'est retrouvée un peu engorgée, victime de sa mode aussi, parce qu'il y a beaucoup de rééditions. Et du coup, les entreprises qui pressent les vinyles vont plutôt privilégier les gens qui ont beaucoup d'argent. Mmh. Et ça fait que les petits artistes, il y a des délais beaucoup plus longs qu'avant pour presser des vinyles. Parce qu'on va privilégier les rééditions d'artistes connus. Donc ça fait plusieurs années déjà qu'en Allemagne, la cassette est un objet qui est hyper à la mode. En France aussi, c'est plutôt pour les groupes de punk. Mmh. Et c'est un objet qui revient pour son côté DIY en fait. C'est parce que c'est un truc que tu peux produire toi-même à la maison. Et du coup, ça rend beaucoup d'autonomie par rapport à la diffusion de la musique. À un certain niveau, quoi. C'est vrai qu'il faut avoir la machine.
C'est ça. On va parler d'ailleurs de l'enregistrement et de comment tu as travaillé pour enregistrer cette cassette. Tu as utilisé un mot que je ne connais pas, DIY.
Do it yourself.
Ah, do it yourself.
C'est un terme qu'utilisaient les punks dans les années 80. Et voilà, c'est l'idée de faire soi-même les choses pour dépendre du moins de personnes possible. Et voilà.
Alors justement, si on parle au côté pratique de comment tu as bossé pour enregistrer cette cassette, comment ça s'est passé ? On te voit bien chez toi en train de bidouiller tes machines parce que le son est super en fait.
Ben merci. Merci pour le son, mais il serait pas aussi super si j'avais pas ce label en Allemagne avec des gens qui masterisent ma musique. Il y a un des artistes du label qui masterise ma musique pour la cassette et pour la diffuser. Donc j'ai beaucoup de chance qu'il mette en valeur mon son. Et ensuite, oui, tout le reste est fait à la maison, devant mon petit ordinateur, dans ma chambre. Et voilà, mais c'est vrai que ce que nous, on fait avec les éditions Infinies pour d'autres personnes, c'est-à-dire fabriquer des écrins papier pour d'autres projets, et ben eux, ils l'ont fait avec ma musique en Allemagne. Ça s'appelle Beerbird Records. Et c'est plutôt très modeste, hein. C'est pas professionnel du tout, c'est juste de la passion sérieuse.
Ouais, de la passion sérieuse, c'est beau. Et justement, si on revient au processus de création, tu disais tout à l'heure que tu t'écrivais, c'est tes poèmes que tu mets en musique, c'est jamais l'inverse ?
Si, maintenant, aujourd'hui, ça change un petit peu. Souvent, les deux émergent en même temps. Parce que c'est vrai que les poèmes, avec les refrains et tout, ça colle pas toujours. Mais je crée les deux en même temps. Souvent, je commence avec un beat, avec une mélodie. Et puis, j'ai mes carnets autour de moi. Et je sais pas, il y a un truc alchimique à un moment qui émerge, il y a un truc qui se crée, et je saurais pas l'expliquer, c'est juste, voilà, ça arrive à un moment, je travaille là-dessus, je bloque là-dessus pendant des jours, et il y a un morceau qui sort de ça.
Justement, tu pars d'une émotion, tu pars de quelque chose que tu as vu, tu pars de quoi en fait?
Oui, ça peut partir, bien sûr, oui, je suis une artiste, alors les émotions, c'est un peu la base de mon travail, d'essayer de les triturer, de les comprendre, d'en faire quelque chose, même si c'est des émotions, des trucs qui font mal, des trucs qui font plaisir. La beauté de l'art, c'est de pouvoir faire quelque chose avec ça, et de pouvoir inspirer d'autres personnes peut-être qui puissent trouver, qui puissent eux aussi se soulager avec ce qu'on produit. Moi, j'ai beaucoup voyagé pendant plusieurs années. Là, je me suis posée par ici depuis 2 ans, mais tout en continuant en parallèle à voyager. Donc, les textes, ça vient des endroits que je visite. Ça vient, oui, après, c'est beaucoup émotionnel, mais ça vient aussi beaucoup d'ici, du contexte dans lequel on le vit, des états d'âme qu'on peut avoir sur la société. Sur la société de consommation, sur l'univers qu'on se crée ici aussi. Donc je voyageais beaucoup en Amérique du Sud, dans la jungle. J'ai visité beaucoup de communautés indigènes, parce que j'ai de la famille anthropologue. Et mon univers, il est un peu entre les deux, quoi. Mmh. Voilà.
Alors justement, toi qui as eu cette chance de voyager, quel regard tu portes sur la culture aujourd'hui en France et cette espèce d'exception culturelle française? Est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs, ou alors on n'est pas trop mal loti?
C'est difficile comme question.
Pourtant, je t'avais promis qu'il n'y en aurait pas de piège. Bon, allez, je me fais toujours un petit cadeau à la fin.
Oh, la culture française, y a des très belles choses, mais elle se complaît un peu sur elle-même, en fait. Je la trouve assez fermée. Et je ne vais pas dire que les cultures indigènes sont plus ouvertes, hein, parce que ce n'est pas vrai. Les gens ne sont pas forcément ouverts. Ils sont focalisés sur leurs rituels aussi. Ils ne prennent pas beaucoup de choses de l'extérieur. Mmh. Mais quand même, il y a des surfaces poreuses. Après, la culture française, moi je sais que mon art n'est pas beaucoup reconnu en France. Que ça vient petit à petit par la pratique, par... par le fait de ne pas se laisser abattre aussi, de continuer toujours à exprimer nos idées. Mais c'est vrai que la culture française, je la trouve assez élitiste, en fait.
Et en tout cas, allez voir une artiste tout à fait complète. Ça se passe à Saint-Martin-de-Lensusque, c'est ce samedi. C'est à partir de quelle heure?
C'est à partir de 20h.
20h, et le prix de l'entrée? Il est libre?
C'est prix libre.
Prix libre, ouais. Pour tout, pour le bar, pour la bouffe. Et vous repartirez peut-être avec un pull,
ouais,
en espérant qu'il y en ait assez pour tout le monde, puisque va être blindé. Merci beaucoup, Futur Z.
Merci à vous de m'avoir reçu.
C'était un vrai plaisir.
Merci à toi.
Et puis, bon concert à toi ce samedi. Je mets évidemment tous les liens, auditeurs, auditrices, où vous pouvez retrouver toute la musique sur Bandcamp. N'hésitez pas à acheter la cassette. Ça permet de soutenir des artistes libres, indépendants, et ça fait toujours plaisir. Tiens, mais on va continuer avec toi, Futur Z. Le prochain morceau s'appelle La Cité Perdue. Merci beaucoup. J'accueille ce matin, et c'est une grande première pour moi, Éric Després, bonjour.
Bonjour.
Tu es paléontologue, comme qui dirait amateur, mais passionné et passionnant. Merci d'avoir accepté mon invitation. Chercheur de fossiles, chercheur de pierres, qu'est-ce qui t'a amené à ça ?
Eh bien, ça a démarré il y a près de 46 ans maintenant, hein. J'avais 9 ans, donc, moi je suis sorti d'une famille d'ouvriers, et donc mon père travaillait dans une usine de menuiserie. Et donc, pour nourrir la famille, on avait un grand jardin. Et en fait, moi, j'avais que le mercredi pour moi, pour faire les devoirs et tout ça. Mais le mercredi, il fallait nettoyer le jardin, arracher l'herbe, biner, arroser, tout ça. Il fallait entretenir. Et c'est là que j'ai commencé à trouver mes premiers fossiles. Alors, chez moi, les fossiles, c'est assez rare, mais on trouve quelques petits gastéropodes, quelques petites rinconnelles, des petits bivalves, des choses comme ça. Donc, je les ramassais, je les mettais sur ma table de chevet, et puis petit à petit, comme ça, je me suis fait une toute petite collection. Et puis, mon père, dans cette usine, il est monté en grade, et plus il montait en grade, plus le jardin diminuait. Oh. Donc, parce que pour une bonne raison, ça lui donnait plus de temps, un peu plus d'argent, ce qui permettait de sortir un peu plus. Et moi, j'avais beaucoup plus de temps pour moi. Et donc, j'ai commencé à prendre mon sac à dos et commencé à aller au bord de la mer, chercher des fossiles dans les carrières environnantes. Et là, j'ai commencé à trouver plein de choses. Là, c'était plus du tout des tout petits bivalves. Là, je commençais à trouver des ammonites, des choses assez importantes, quoi. Et donc, jusqu'au jour où je suis parti au bord de la mer, j'ai fait 50 km aller-retour avec mon vélo. Et là, j'ai trouvé des ammonites absolument énormes, des trucs énormes. Et j'ai foutu ça sur mon porte-bagages. Et bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé ? Le premier virage, j'ai déjanté, quoi, hein. Les fossiles d'un côté, et puis le vélo de l'autre, le gars dans la palisse, et voilà. Et donc, le soir, je dis à mon père, écoute, je suis revenu tant bien que mal, mais j'ai plein de fossiles qui sont restés dans une haie là-bas. Est-ce que tu peux m'emmener les chercher ? Ah, il me regarde avec des grands yeux, il me dit, écoute, je t'emmène. Et là, quand il a vu ce que j'ai trouvé, il dit, écoute, on va faire un voyage dans le temps ensemble, quoi. Et depuis bientôt 40 et quelques années, il vient avec moi. On cherche des fossiles, il a 86 ans maintenant. Et on a fait un bout de chemin ensemble et on a trouvé énormément de choses au bord de la mer, dans les carrières. Quand il y avait les grands travaux comme l'autoroute A10 par exemple, où là il y avait des bulldozers qui arrachaient tout et tout ça, on a trouvé des fossiles de toutes sortes, quoi. Et voilà.
Qu'on soit clair, tu nous viens d'où ?
Alors donc moi je suis d'Aigrefeuille de Nice, à côté de La Rochelle.
Charente-Maritime,
et c'est une région très riche, très fossilifère. Et donc du coup, j'ai appris à prendre mes étages géologiques. Mes parents m'ont acheté mes premiers bouquins de fossiles, quoi. Voilà.
C'est quoi votre plus belle découverte ?
Ah, alors mes plus belles découvertes, c'est peut-être cette forêt engloutie. À un moment donné, avec le temps, on peaufine ses recherches et tout ça, et au 19e siècle, il y a un naturaliste français qui s'appelait Alcide d'Orbigny, qui est très connu, qui a découvert une ancienne forêt fossilisée qui a à peu près 100 millions d'années en Charente-Maritime. Et cette forêt fossile est tombée dans l'oubli pendant près de 150 ans. Et avec une équipe de chercheurs de l'université de Rennes et de Lyon, on s'est mis à rechercher cette forêt fossile. Et on a retrouvé plein de choses. On a retrouvé des plantes. Des troncs, qui ont 100 millions d'années, hein. De la résine fossile. Et là, on s'est dit, oh là, mais c'est Jurassic Park. Là, c'est plutôt Crétacé Park, mais parce que c'est du Crétacé, ça a 100 millions d'années, quoi. Et là-dedans, avec les équipes de recherche de Rennes, il y a une équipe fabuleuse, hein, avec Didier Néraudeau, hein. Donc, on s'est mis à chercher, et là, on a trouvé, on s'est dit, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ces résines fossiles, quoi. Donc, on avait une technique assez destructrice au départ, où on cassait tout en petits morceaux pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur de l'ambre, avec des lumières blanches très très puissantes, ce qui nous a permis de trouver des nouvelles espèces, des nouveaux genres, des nouvelles familles, d'héminoptères, diptères, raphidioptères, coléoptères. Et l'équipe de Rennes a contacté des chercheurs du synchrotron, l'accélérateur à particules de Grenoble. Et à partir de là, ça a été un peu une aventure avec les chercheurs de là-bas. Et donc, moi, je leur ai fourni du matériel aussi. Ils ont trouvé du matériel énormément aussi. Et donc là, avec ce rayon X du synchrotron, on envoyait un rayon X 10 000 milliards supérieur à une radiographie normale. Ce rayon X va aller sonder la matière et à l'aide d'un microscope optique superposé d'un scintillateur, enfin qui va convertir le rayon X en lumière visible, on va pouvoir voir sur un écran d'ordinateur les insectes ou les plantes qui, elles, sont restées dans leur sarcophage de résine.
C'est voilà. Ouf, c'est dingue. Enfin, voilà. C'est le micro qui me dépasse, c'est génial. D'après ce que j'ai pu voir, tu as une collection exceptionnelle, évidemment, hein, plus de 40 ans de recherche, et d'après ce que j'ai lu, elle est unique en Europe.
Bah, c'est une collection assez importante, oui. Donc l'intérêt, c'est d'en faire profiter la population. Donc souvent, cette collection sert d'exposition thématique pour les musées de France. Donc mes premières expositions ont été faites avec l'aquarium de La Rochelle par exemple, hein. Et puis après des musées nationaux ou des musées municipaux, et donc cette collection travaille avec des thématiques, que ça soit sur les dinosaures, que ça soit sur les plantes, que ça soit sur les ammonites, et donc mon matériel est prêté comme ça. Je fais aussi des donations. Mais j'ai beaucoup de fossiles, j'ai à peu près 2000 fossiles donnés dans les musées français et internationaux. J'en ai au British Museum aussi, j'en ai à Tokyo, un peu partout, à Berlin.
Et justement, t'as fait un nombre de pays, combien, une quarantaine, c'est ça ?
La collection, c'est à peu près une quarantaine de pays, mais je ne suis pas allé dans tous les pays, j'ai des amis un peu à droite à gauche. Mais non, moi je cherche essentiellement dans ma région, je fais quelques échanges. Mais voilà, c'est essentiellement régional pour moi. Bon, ça m'est arrivé, oui, d'aller dans le désert, d'aller à droite à gauche, oui, bien sûr. Après, c'est autre chose.
Est-ce que, justement, ces fossiles, ça foisonne dans tous les pays, ou alors est-ce qu'il y en a vraiment en particulier, ou il y en a
plus. Y a des pays où c'est plus minéral que d'autres, bien sûr, mais après, voilà, il y a aussi une législation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une législation très rigoureuse en fonction des pays. On ne va pas dans les pays chercher des fossiles comme ça, même en France, tout simplement.
Dans les Cévennes, par exemple.
Par exemple, dans votre région. Hein,
c'est pas le paradis pour toi.
Voilà, justement, il y a des choses qu'il faut respecter et tout ça. Moi, je vais essentiellement, quand il y a des gros chantiers, des choses comme ça, où là, ils cassent tout au bulldozer ou choses comme ça, on essaie de sauver. Comme je dis souvent, moi, ma collection, je ne l'emmènerai pas avec moi dans mon cercueil. Hein. Donc, c'est pour les générations futures. Ce que je sauve, ce que j'aurai au moins sauvé, ça sera pour les générations futures. Voilà, je ne suis que de passage. Hein. Voilà.
J'en ai plein des questions bateau, puisque c'est ma grande première paléontologue à la radio. Comment on date un fossile?
Alors... tout ce qui est autour de... Alors là, je ne suis pas un spécialiste sur la datation. Donc, pour ce qui est de préhistorique, on va dire sur quelques milliers d'années, ça va être le carbone 14. Après, c'est plutôt la radioactivité. La radioactivité qui va être prise plutôt dans des roches métamorphiques. Et la problématique, c'est que les fossiles, on les trouve plutôt dans des niveaux sédimentaires. Donc, il faut calculer... la radioactivité qu'il peut y avoir dans les roches métamorphiques pour après les substituer à des couches sédimentaires. Et donc c'est assez complexe. Donc voilà, c'est sur ces bases-là radioactives et ça c'est utilisé pour la datation. Voilà.
Justement, tu parlais aussi d'échanges entre amis, etc., entre paléontologues. Comment ça se passe? Comment vous vous rencontrez? C'est quoi? C'est par hasard?
On se rencontre comme ça entre collectionneurs et on se fait quelques échanges comme ça. Voilà, t'as trouvé ça, moi j'ai trouvé ça. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça.
Pourquoi si ça te passionne tant, t'en as pas fait ton métier?
Pour une bonne raison, c'est que quand on a un métier, on dépend toujours de quelqu'un. On a toujours quelqu'un au-dessus de soi. Et donc, c'est un peu, je vais dire, comme les artistes. Les artistes, si on veut s'exprimer, il faut être seul. Enfin, il faut avoir pouvoir. Et donc, moi, je n'ai pas voulu en faire mon métier. J'ai voulu que ça soit une passion pour être essentiellement un électron libre, en fait. Pour faire ce que je veux, tout en respectant, bien sûr, ce qu'il y a autour de moi, l'environnement, les choses comme ça, on ne fait pas n'importe quoi. Mais de pouvoir dire, voilà... si c'était mon métier, on va te donner une directive. On va dire, voilà, tu vas travailler sur ça. Tu vas travailler sur ça, ce qui est très bien. Je ne discute pas. Hein, il faut avoir aussi des... Mais moi, je suis un néo-darwiniste. Hein, je m'intéresse à la vie, à l'histoire de la vie en général. Ce qui nous remet plutôt à notre juste place aujourd'hui. Hein, parce qu'on n'est que de passage sur Terre. Donc, voilà, il faut rester humble, je crois. Hein, et voilà, c'est plutôt où m'amène l'histoire de la vie. Voilà, ça va être aussi bien un petit oursin qui va faire 3 mm de diamètre, ou un petit micro-organisme qui va faire 1,5 mm, aussi bien un dinosaure qui fait 40 mètres. Voilà.
Alors, on le disait tout à l'heure, les Cévennes, c'est le paradis aussi des fossiles. Il y en a, voilà. C'est interdit, je le répète, hein, quand même, de ramasser dans le parc national. On respecte.
Tout à fait.
Est-ce que tu en as vu et quel genre de fossiles on peut trouver dans le coin?
Alors, oui, on en voit des fossiles, hein, tout à fait. Hein. D'ailleurs, vaut mieux les laisser vraiment tranquilles pour une bonne raison. C'est que, tout à fait, c'est des zones quand même qui ont été assez érodées. Donc, il n'y a pas d'intérêt à chercher à les sortir parce que vous allez sortir des choses que vous allez casser souvent. Ils sont très érodés. Vaut mieux les contempler, à se promener comme ça dans la nature tout en respectant l'environnement parce que c'est pareil, il ne faut pas piétiner partout dans les zones. Voilà. Et on les voit là comme ça. Mais il faut quand même un œil averti parce que souvent ils sont très très érodés. Moi j'en ai vu extrêmement érodés, donc on voit juste des formes comme ça. Voilà. Mais ce qui est assez marrant, c'est que on est à 80-100 mètres au-dessus le Tarn et on voit des fossiles qui vivaient dans la mer, quoi. Donc c'est assez impressionnant. Ce qui veut dire que de toute façon, ce qui aujourd'hui est une montagne, demain ça sera peut-être le désert ou l'océan. Hein. Faut bien se mettre ça dans la tête. Hein. Nous sommes pas dans un milieu figé, hein, bien sûr. Nous sommes dans un milieu en mouvement. Et de toute façon, on aura beau faire tout ce que l'on voudra, on aura beau faire protéger tout ce que l'on voudra, de toute façon, ça sera Dame Nature qui sera la maîtresse.
Alors justement, s'il y a des enfants qui nous écoutent, hein, et, ou même des gens qui veulent chercher des fossiles et tout, est-ce que tu as des conseils ? Tu disais qu'il fallait avoir l'œil averti, mais est-ce qu'il y a des zones où on peut chercher
déjà,
où,
déjà, il faut... si c'est juste comme ça, chercher des fossiles sans intérêt, je sais pas quoi vous donner. Hein, mais ce qu'il y a, c'est déjà, si on s'intéresse un peu, c'est de bouquiner déjà. De bouquiner, d'apprendre un peu ce que c'est qu'un fossile, comment c'est apparu, la fossilisation, les états géologiques, pourquoi pas. Puis après, de regarder ce qu'on a autour de nous, hein, tout simplement. Et puis après, bien sûr, si on veut aller quelque part, bah, il faut plutôt avoir des autorisations. Hein. Aujourd'hui, tout est œuvre d'autorisation. Donc autorisation des propriétaires, chose comme ça qu'il faut demander. Donc on va pas chercher des fossiles comme ça. Voilà, c'est assez particulier quand même.
Et est-ce que tu parlais de travaux, etc. Est-ce que comme pour les fouilles archéologiques, il doit y avoir aussi des fouilles paléontologiques justement ?
Alors au niveau des fouilles archéologiques, il faut savoir que c'est strictement interdit en France. Depuis une loi de 2016, je crois, où on n'a pas le droit de faire de fouilles archéologiques. Ah non, non, ça c'est strictement interdit. On n'a pas le droit de s'amuser à faire dans votre jardin.
Ah, oui.
C'est interdit. Ça, c'est la DRAC, c'est le ministère de la Culture qui gère ça. Voilà. Et après, pour les fossiles, après, c'est un autre domaine, c'est autre chose. Si vous êtes dans une zone protégée, Et après, c'est au libre choix des propriétaires. De vous donner l'autorisation ou de vous interdire. Ça, après, c'est autre chose.
Qui est Christopher Jones ?
Christopher Jones, ouais, on en a parlé dans notre discussion. Ouais, c'est un ami que j'apprécie beaucoup. Donc, Christopher Jones est un cinéaste américain qui j'ai eu l'occasion de rencontrer par le biais des fossiles avec Marie-Dominique Montel. Et c'est des personnages, par le biais des fossiles, on rencontre des gens incroyables, quoi. Il a vécu toute sa jeunesse à Walt Disney. Donc, sa maman dessinait Donald. Et son papa était le publiciste de Walt Disney. Et donc, j'ai fait sa rencontre. Et je lui dis, raconte-moi Walt Disney, alors. Et donc, il m'a raconté des histoires comme ça. C'est incroyable. Donc, ça permet. Mais une journée, on était à manger ensemble et ma fille était avec nous. Et ma fille a 27-28 ans. Elle est ornithologue d'ailleurs. Et elle dit, tu te rends compte, papa, entre ce monsieur et moi, il n'y a que Walt Disney. Il y a Walt Disney, il n'y a que lui qui nous sépare entre les deux. C'est incroyable. Voilà, c'est des histoires comme ça. J'ai aussi eu l'occasion de rencontrer Haroun Tazieff. Haroun Tazieff, c'est quelqu'un qui m'a plutôt... aussi poussé à aller vers la paléontologie. Bon, lui, c'était un vulcanologue, hein, bien sûr. Ouais. Hein, mais
l'un des plus grands.
Des plus grands. Mais il avait une ouverture d'esprit assez incroyable. C'était quelqu'un qui était très, très ouvert, qui avait une connaissance du terrain incroyable. Et il m'a beaucoup impressionné. C'était des grands personnages. Ouais.
La joie des rencontres, d'ailleurs on est en train d'en faire une en ce moment sur les ondes. Est-ce que tu es prêt pour l'interview détente ?
Oui, je serais peut-être pas très bon là-dessus.
Allez, on y va, jingle. C'est l'heure de l'interview détente.
Bah ouais, parce que j'ai pas le droit de dire feel good.
Non, je dois parler français. Alors, un film que tu nous conseillerais ?
Alors, Le Patient anglais, par exemple.
D'Anthony Minghella.
Ouais, qui m'a beaucoup plu. Puis j'aime bien Christine Scott Thomas aussi. Voilà, oui. Bon, après, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un cinéphile dans l'âme, hein, c'est plutôt mon épouse. Mais voilà, voilà ce qui me vient à l'esprit direct. Quoi.
Le Patient anglais et un artiste.
Ben Bachung, ouais. J'aime bien Bachung, comme Gainsbourg, j'aime bien aussi. David Bowie aussi, je vois une affiche là à côté. Des gens qu'on a appris à connaître aussi. Voilà, il y a des personnages aussi, des artistes comme ça qui ont passé maintenant, malheureusement. Mais voilà, c'est des beaux souvenirs qu'ils nous ont laissés.
Et voilà, merci beaucoup à Eric Desvrais, paléontologue. C'est la fin de cette matinale. On se retrouve lundi. lundi. Merci à toutes et tous de nous suivre. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Vous dire que le 10 décembre prochain, Bartas fête ses 10 ans. Ça se passera à Bédouès, à la salle des fêtes. Ça va être cool. Réservez donc votre journée si vous voulez nous filer un coup de main, et votre soirée. On va bien rigoler. Future Z, quant à elle, se produira à Saint-Martin-de-Lensusque, le temple, ce samedi 26 novembre. Allez-y, allez l'écouter. Vous avez passé une excellente soirée. D'ailleurs, on se quitte avec elle. Future Z, le morceau s'appelle Paranoia. Excellente journée à toutes et tous. Restez bien sur Bartas, on y est pas mal. À lundi, ciao.
Paranoia.